De retour à l'émission Au gré du temps, notre invité cette semaine avec grand plaisir, Yves Dutheil, qui vient de publier un nouvel album qui a pour titre Respect et auquel vous avez, j'ai presque le goût de vous dire, porté une attention particulière à chacune de nos peurs individuelles. Parce que en écoutant cet album, on a l'impression qu'on aurait peut-être pu l'écrire. Nos doutes, nos peurs s'y retrouvent, nos espérances aussi.
Oui, oui, j'en ai pas conscience en le faisant, parce que...
C'est la force du poète.
C'est ça, c'est que c'est la force de la poésie. Le poète, lui, il est pas fort, il est sensible, il va écrire un puzzle qui va se mettre en place pour les autres. C'est-à-dire, c'est les autres qui vont prendre du recul pour regarder l'ensemble et qui vont découvrir si ça a une force ou pas. Donc il y a beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité là-dedans. Et moi, j'ai pas conscience forcément d'écrire pour rassembler les peurs, parce que j'ai plutôt l'impression aussi que j'essaie de décrire le positif, c'est-à-dire l'amour qu'on a pour ses proches, l'admiration qu'on a pour certaines personnes qui sont près de nous et qu'on est tellement attentif à regarder qu'on s'aperçoit que ce sont des personnes exceptionnelles.
Vous êtes un témoin privilégié de la vie qui bat autour de vous, comme vous l'avez été précédemment avec cette chanson merveilleuse, La langue de chez nous. Vous avez su traduire la qualité de cette langue en grand amoureux de la langue française. C'était en 1985 que vous nous offriez cette chanson merveilleuse, une chanson qui a d'ailleurs reçu beaucoup de prix. Si on se permettait de la réécouter, parce qu'encore une fois, elle rejoint probablement notre âme profonde, nous qui sommes des locataires francophones.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. On aimerait beaucoup que cette symphonie se fasse entendre de nos jours, parce qu'on a souvent l'impression, comme on le disait précédemment, puis on ne veut pas être pessimiste, mais qu'il y a davantage de brouhaha, de bruit environnant, que de symphonie dans le monde actuel.
Alors ça, c'est effectivement une symbolique très forte, parce que l'orchestre, la chorale, etc., sont des, pour moi des symboles très vivants et très forts de ce que pourrait être le monde aujourd'hui. Alors, pour qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une différence. Tous les instruments de l'orchestre sont différents. C'est comme si on imaginait vouloir que tout le monde soit pareil, comme aujourd'hui certains y aspirent. Ce serait vouloir que dans un orchestre, allez, on va composer un orchestre symphonique où il n'y aurait que des trompettes, ou que des batteries, ou que des harpes, ou que des guitares. Ça donnerait une espèce de truc pas très intéressant où finalement on n'arriverait pas à exprimer grand chose. Mais il faut aussi non seulement cette différence entre les instruments pour que ça crée un ensemble qui soit comme un éventail, comme une ouverture et avec des graves, des aigus, des médiums, mais il faut aussi un chef d'orchestre à un moment donné et un compositeur. Donc ça prouve que, quand je dis un chef d'orchestre, dans mon esprit c'est pas le chef de l'orchestre, c'est celui qui va être l'interprète de l'harmonie générale pour être le reflet du compositeur, qui lui aura imaginé l'harmonie qu'il pourrait y avoir entre tous ces gens. Et donc c'est pas hiérarchique, c'est pas vertical, c'est pas le chef de tout le monde. C'est simplement celui qui va avoir une partie à gérer. Et je crois que dans l'humanité, on est tous comme ça. On a envie d'avoir un capitaine du navire, on a envie d'avoir quelqu'un qui pilote un peu l'avion. Pour éviter qu'on noie.
En partant de cette métaphore, est-ce que vous le voyez ou vous la voyez, cette personne qui actuellement peut inspirer le monde?
Ben parce qu'il n'est pas tout seul. Il est dans son domaine quelqu'un qui va inspirer l'ensemble à un moment donné parce qu'on lui confie ce rôle pour cette phase-là, cette séquence. Mais c'est pas pour autant le chef de tout le monde. Donc je vais pas décrire le portrait du chef. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours vécu l'autorité de la compétence et pas l'autorité du grade qui est cousu sur l'épaule. J'ai toujours eu ça en horreur, cette espèce d'autorité. Je suis le chef, donc j'ai raison. Alors que dans un orchestre, c'est pas celui qui a le plus haut grade qui a forcément raison, c'est celui qui va être le plus représentatif de l'harmonie qu'on cherche à créer.
Mais on ne veut pas ces dissonances, on ne veut pas les entendre. Elles sont présentes, cependant. Et il faut donc, comme vous le dites si bien, qu'il y ait cet être quelconque qui puisse inspirer chacun à être au diapason d'un monde harmonieux.
Alors oui, à condition que on n'exclue pas le côté novateur que chacun de nous peut apporter. Si on réfléchit trop en termes de « il faut qu'il y ait un être qui soit le garant de l'harmonie générale », il n'y a plus de jazz, il n'y a plus de musique contemporaine, parce qu'elles sont dissonantes, il n'y a plus de peinture cubiste, il n'y a plus Picasso.
Nous sommes tous des co-générateurs de la création, d'une certaine façon.
On est tous un petit peu une graine. J'ai entendu quelque chose qui m'a énormément plu à propos de toutes les expressions du respect aujourd'hui. Oui. Les gens qu'on essaie de faire taire, qui disaient « on a essayé de nous enterrer et on a oublié que nous étions des graines ». Je trouvais ça très très beau.
Formidable.
Et très représentatif de ce qu'est l'humanité aujourd'hui. Oui. Les graines, c'est forcément quelque chose d'inattendu. On ne sait pas ce qui va pousser. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait que ça pousse uniquement de telle façon pour donner tel fruit en s'interdisant qu'il y ait des nouvelles variétés.
Et voilà peut-être l'espérance, toutes ces graines qui sont mises en terre, sous, comme vous le dites, le prétexte d'être enterrées, mais qui vont donner peut-être un monde complètement nouveau. J'entendais quelqu'un récemment dire que autrefois l'église, c'était les 3 C, le clocher, le curé et le carré où s'installait le bâtiment. Aujourd'hui, l'église, ce devrait être 3 R, rassembler, révéler, et recréer. Et je trouvais ça merveilleux, parce que dans un monde où effectivement le spirituel doit prendre beaucoup de place, nous prenons cette minute de silence pour réfléchir, nous devons la prendre, on a besoin de se rassembler les uns les autres.
Oui, je crois qu'on a l'image du foyer, en fait. C'est rassembler, réchauffer aussi.
Oui, oui.
Et je pense que on a chacun son église au fond de son cœur. La spiritualité c'est ce qui nous caractérise. On dit le rire est le propre de l'homme. Ok, mais il y a quand même aussi la spiritualité, l'esprit, l'âme, le cœur, qui sont indissociables de tout ça. Donc oui, j'ai envie de dire religion, chacun à sa façon, et spiritualité partagée au-dessus de tout ça par quelque chose qui nous rassemble tous, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos visions de la spiritualité, et qui fasse qu'on puisse, on peut aussi se réchauffer au même feu en regardant vers d'autres cieux.
Et de continuer de faire les pas qui nous mènent vers demain. Félix disait, moi mes souliers ont beaucoup voyagé.
Et il disait aussi, quand un arbre tombe, il laisse deux trous, le plus grand dans le ciel.
Moi mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère.
Moi mes souliers ont passé dans les prés, moi mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une.
Sur mes souliers y a de l'eau des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je veux dire qu'ils ont respecté le curé, payé le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver des bouchers, s'ils ont traîné de village en village, suis pendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage.
Moi mes souliers ont préféré les plaines.
Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
Quand Dieu le Père a fait son testament, il a donné à chacun de ses enfants un bon coup de guitare, de belles phrases rimées. Et puis il nous a dit, chantez,
chantez.
Allez chanter. Je ne suis pas jaloux de vous, si vous le permettez, je chanterai avec vous. Et puis si c'est ainsi, dans le plus beau chant de l'île d'Orléans, approchez mesdames, messieurs, approchez, visitez l'île d'Orléans. Des beaux sous-bois, des frais chambés, un beau guitette, un fil de chenille. Approchez, approchez. La rivière coule un peu moins gros qu'avant, et la montagne a baissé avec le temps. Mais dans 2000 ans, non, il n'y aura pas de ciment. à l'île d'Orléans. Approchez, mesdames et messieurs, visitez l'île d'Orléans. Au fond à droite dans la clairière, la belle maison de Félix Leclerc. Au fond à gauche, ce petit coteau, le bungalow de Gilles Villon. Au fond de la cour, Charles Aznavour. Au bord du pré, Léo Ferré. Vers le ruisseau, c'est Gilbert Rigaud. De l'autre côté, la porte qui graisse, c'est celle de la grange de Georges Brassens. Approchez, 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 recueillons-nous. Écoutons-les chanter.
Nous venons d'entendre Félix Leclerc, Moi, mes souliers, et c'était évidemment une reprise en compagnie de Lost Fingers. Alors, avec la technologie moderne maintenant, on peut reprendre les bandes originales et redonner un peu de dynamisme à la rythmique des chansons de Félix Leclerc. Et on a aussi entendu Jean-Pierre Ferland et sa chanson pour Félix. Avec nous, bien sûr, avec grand plaisir, Yves Duteil, qui vient de publier un album qui a pour titre Respect. Un album dans lequel il est question aussi d'espérance. Hein, on disait que c'est un album qui décrit peut-être aussi le monde dans lequel nous sommes, mais avec une lumière d'espoir.
J'ai toujours eu l'impression, en écrivant des chansons, qu'on pouvait faire du positif avec le négatif qui nous entoure. On part tous de situations, on a comme un jeu de cartes entre les mains et notre donne, elle n'est pas toujours bonne. Il y a des gens qui naissent avec un handicap, il y a des gens qui naissent bien et puis qui tout d'un coup ont un accident, qui rencontrent l'adversité sur leur chemin. Donc on a tous un jeu de cartes qui n'est pas le même. Mais à partir de ce jeu de cartes, il y a des gens qui, à partir d'une catastrophe, arrivent à sublimer leur handicap, à sublimer leur épreuve pour agir dans ce sens-là et faire du positif avec quelque chose de terriblement difficile à vivre. Donc, moi, j'essaie de faire un petit peu pareil avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui et j'ai pas envie d'apporter du désespoir. Mais je fais une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est quelque chose qu'on attend. On regarde si ça va venir, si ça vient pas, etc. L'espérance, c'est de l'espoir qui se lève et qui se met en route, qui marche et qui agit. Alors, on devient un des acteurs de notre époque si on a l'opportunité de rencontrer une cause à laquelle on adhère et qu'on va défendre, et tout en se disant, je crois que je vais essayer de semer quelque chose, puis on verra bien si ça fleurit.
Parce que pour changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Donc être en marche, comme vous le dites.
Voilà, je ne sais plus quel sage oriental disait, pour changer le monde, commence par changer en toi ce que tu voudrais voir changer dans le monde. Et je crois que ces changements de mentalité, ils sont beaucoup plus lents que l'évolution technologique, maintenant quand on parle d'intelligence artificielle, d'hommes augmentés, de transhumanisme, on a l'impression que la technologie va nous apporter la solution.
Est-ce que ça vous effraie, ça, vous ?
Ça m'a effrayé, ça m'effraie encore, mais je regarde quand même ça avec beaucoup d'objectivité, parce que j'ai entendu des scientifiques parler de ça, et que je crois qu'on est à un changement d'époque qui est comparable probablement à celui où, au moment où les hommes ont inventé l'écriture. L'écriture, ça a été la première manifestation concrète pour fixer quelque chose à l'extérieur de notre cerveau qui nous permettait de garder la mémoire au-delà de nous. Mmh. Donc on a écrit, et les mots, les tablettes qu'on a gravées, ont pu transmettre quelque chose. Aujourd'hui,
D'arrêter le temps même. L'écriture a permis d'arrêter le temps.
De l'arrêter ou de le conserver, de mémoriser, quoi, voilà. De le transformer en mémoire.
Ouais.
Aujourd'hui, on est en train de faire la même chose avec des disques durs, des informations. On dit, le jour où on arrivera à connecter un disque dur sur notre cerveau, on aura une capacité de mémoire extraordinaires à disposition qu'on n'a pas aujourd'hui. Bah oui, sauf que ça ne nous rendra pas plus intelligents. C'est l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas encore... on en est encore au balbutiement. C'est un nouvel outil. Alors, on se plaît à se dire que c'est une révolution. Moi, je pense que c'est un moment dans notre vie et que plus tard, on saura si oui ou non, ça équivaut à l'écriture pour l'humanité ou à l'imprimerie. Ou à, voilà.
J'ai vu en rêve une prairie infinie. J'ai vu en rêve un soleil endormi. Et dans mon rêve, nos ailes d'or se déploient et un seul esprit nous unit, toi. Écoute cette voix, c'est celle de ta terre. Écoute tes rêves, pense à moi quand tu t'éveilles, moi qui suis ton.
D'entendre deux frères sous le soleil, c'est peut-être aussi un moment privilégié que de pouvoir réfléchir à ce que vous évoquez sur l'intelligence artificielle, que de se rappeler que nous sommes tous des frères aussi, les uns les autres, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos appartenances.
Quand on se coupe la main, voilà, le sang qui sort, il est rouge pareil chez tout le monde, qu'on soit noir, jaune, voilà. C'est quelque chose qui est un peu l'exemple de ce qu'on voudrait voir partagé, parce que au-delà de nos différences, on a quelque chose en commun. Et ce quelque chose, si on arrive à le partager, on est plus riche de ce partage que riche de se séparer les uns des autres pour dire bon bah ici c'est moi, là c'est toi, et puis on va bâtir un mur entre nous pour que chacun soit chez lui. Ça n'a pas grand intérêt, et puis on n'est pas fait comme ça et on n'est pas fait pour ça.
Yves Duteil, on va sûrement pouvoir poursuivre cet entretien la semaine prochaine, si vous voulez bien être des nôtres.
Si j'ai gagné, je reviens en deuxième semaine.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois, l'animation et réalisation. Et Yves, on va se quitter sur une forme de prière. Lorsque vous chantez cette chanson merveilleuse pour les enfants du monde entier, que je considère que c'est une prière parce que vous dites pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie. Et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil, des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté. Pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde.